c'est reparti pour un tout nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverdy. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
On va parler aujourd'hui recrutement d'apprentis.
Oui, c'est la saison, pour dire les choses concrètement. Dans la perspective de la rentrée de septembre, ou même avant, et évidemment, l'objectif premier pour un apprenti, c'est déjà, et avant tout, de trouver une entreprise d'accueil pour les parcours d'apprentissage, et nous en accueillons une, c'est le cas de le dire aujourd'hui.
Une entreprise qui recrute dans le bâtiment, c'est l'entreprise UTB. Bonjour Pierre Badevant.
Bonjour.
Vous êtes chargé RH dans cette entreprise donc, qui recrute des apprentis, c'est ça ?
Exactement, on est une entreprise de bâtiment de 1200 salariés dans le domaine du bâtiment, les métiers de la plomberie, du chauffage, de la couverture, étanchéité, charpente, électricité. Et on croit beaucoup en l'apprentissage. Nous, on a 10% de notre effectif qui est en alternance. Et donc, on prévoit de recruter à la rentrée de septembre près de 50 apprentis de tous les niveaux, du CAP jusqu'au niveau ingénieur.
Il y a des métiers en particulier dans le bâtiment où vous cherchez justement à mettre en place ces apprentissages ?
Je pense notamment au métier de la couverture qui est un petit peu moins connu. Mais oui, on recherche notamment des couvreurs pour travailler sur, par exemple, du patrimoine historique, des monuments parisiens notamment.
Alors, vous parlez des monuments parisiens, mais j'imagine que vous recrutez ces apprentis un peu partout en France, oui.
Exactement, à Paris, mais aussi en province, dans le Nord, en Normandie, en région Centre, région Bourgogne et région lyonnaise.
Jérôme Laverny.
Est-ce qu'il y a des CFA avec lesquels vous travaillez plus en particulier ou vous êtes susceptible d'accueillir n'importe quel candidat inscrit dans n'importe quel CFA ?
N'importe quel candidat, oui, dans n'importe quel CFA, dans une formation du bâtiment, que ce soit les CFA BTP, les Compagnons du Devoir, la Fédération Compagnonique, tous les CFA.
Pierre Badevant, vous avez dit l'importance finalement de l'apprentissage concernant votre entreprise, l'UTB. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que ça apporte en plus finalement ?
Ça apporte beaucoup de choses, du dynamisme, de la fraîcheur, aussi un intérêt. Nos apprentis d'aujourd'hui sont nos salariés de demain, c'est l'objectif de l'entreprise. Et on a des salariés qui ont un savoir-faire important, qui vont partir en retraite, et on a besoin qu'ils transmettent leur savoir-faire à des apprentis, à des jeunes qui vont demain devenir nos futurs salariés.
C'est-à-dire que parmi ces apprentis, cette cinquantaine d'apprentis là que vous allez recruter, ces 50 apprentis, certains, après leur apprentissage, sont peut-être embauchés par votre entreprise, l'UTB ?
Oui, évidemment, et on espère, nous, le plus grand nombre. C'est notre objectif, c'est que le plus grand nombre d'apprentis puissent intégrer l'entreprise à long terme, puissent évoluer et progresser.
Comment vous voyez l'évolution, justement, dans la filière du bâtiment, du côté de l'apprentissage, du côté des recrutements aussi, plus globalement ?
C'est difficile. On a vraiment un fort besoin de main d'œuvre, on a du mal à trouver des candidats, notamment de certains métiers, notamment dans la couverture. Alors que c'est un métier où il y a de l'avenir et des perspectives d'évolution. Le bâtiment, c'est un secteur où on connaît beaucoup une ascension sociale. On peut évoluer. Ouais. On peut devenir chef de chantier, conducteur de travaux, juste avec un CAP. C'est des emplois aussi qui ne sont pas délocalisables. C'est vraiment des emplois d'avenir. Donc, on a besoin que les jeunes, jeunes hommes et femmes, évidemment, s'intéressent à ces métiers.
D'ailleurs, vous parliez hommes et femmes. Ce sont des métiers qui se féminisent un petit peu ?
Oui, ça se féminise. Alors, plus facilement, on va dire, dans les métiers de conduite de travaux, mais aussi un petit peu sur les chantiers. On a quelques femmes qui, par exemple, sont couvreurs.
Jérôme Laverny.
Est-ce que vous sentez justement un changement dans les mentalités par rapport aux candidats ? Alors, c'est toujours très difficile de recruter sur les métiers du bâtiment d'une manière générale, mais est-ce que vous sentez quand même poindre un petit changement dans l'air du temps ?
Changement, c'est difficile, non, pas vraiment de changement. En tout cas, voilà, enfin, le bâtiment garde une image de métier difficile, et c'est dommage, parce que voilà, aujourd'hui, c'est quand même plus facile d'être plombier ou couvreur qu'il y a il y a 30 ans. Il y a des aides, notamment à la manutention, donc c'est vraiment des emplois accessibles à tous.
Travail à faire encore.
Eh bien oui, en tout cas, 50 apprentis de tout niveau que vous recherchez à l'entreprise UTB spécialisée dans le bâtiment. Merci beaucoup Pierre Badevant d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, donc chargé RH pour ATB. Merci à vous et très belle journée.
Merci également, au revoir.
Merci également à vous Jérôme Laverny. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi pour un nouveau coup de main pour l'emploi. On parlera présidentiel. Bah oui, ça se rapproche.
Sans faute, Benjamin, à lundi.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. Merci Jérôme Laverny et Benjamin Glaise, que vous retrouvez tout à l'heure pour le Grand Matin Sud Radio aux côtés de Cécile de Ménibus. C'est une matinée spéciale, on y revient dans un instant, mais nous sommes le 25 mars à 6h22. Il est temps de se souvenir de ce jour, le 25 mars. On vous amène 21 ans plus tôt. C'est jour d'élection du maire de Paris et officiellement Bertrand Delanoë le 25 mars 2001 est donc maire de Paris. Il succède à 24 années de direction de la droite. Jean Tiberi juste avant lui, Jacques Chirac pendant très longtemps. C'était une révolution pour la gauche qui depuis est toujours au pouvoir. Ambiance à l'époque, alors là c'était au moment du vote, hein, une semaine avant.
L'émotion est présente ce soir dans le cœur de ceux qui depuis si longtemps rêvait de replacer Paris sur la voie de l'avenir, de l'imagination et de l'espoir. Merci aux électrices et aux électeurs qui, par leur conviction, leur créativité, leur générosité, ont été les auteurs et les acteurs de ce moment historique.
Et donc, depuis le 25 mars 2001, c'est la gauche qui est au pouvoir à la mairie de Paris. Des anniversaires en ce 25 mars. Déjà un anniversaire clin d'œil et particulier à Vladimir Klitschko, double champion du monde des poids lourds, le frère de Vitali, lui également champion du monde et qui est actuellement maire de Kiev, la capitale ukrainienne. Anniversaire également à un chanteur plus tout jeune, hein, 75 ans, Elton John. I'm still standing. Et ben on attend toujours l'autre. Alors l'autre grand anniversaire du jour, bon, elle nous a quittés en 2018. Elle était née en 1942. Une immense chanteuse avec derrière elle, écoutez l'orchestration de l'Orchestre Philharmonique de Londres. Bon anniversaire Aretha Franklin. C'est absolument magnifique et terrifiant. À 6h25, on ne peut que bien se réveiller. Matinée spéciale sur Sud Radio, le Grand Matin Sud Radio spécial élection présidentielle. Ce matin, avec dès 6h43, le premier invité, Othmane Nasrou, le porte-parole de la candidate LR Valérie Pécresse. Ça nous emmènera jusqu'à 8h15, où Éric Zemmour sera là face à Éric Revel. Une bien belle matinée sur Sud Radio.
5h-10h. Le Grand Matin Sud Radio.
Attention, cet homme est providentiel. Il peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Et lorsqu'il est à Vincennes, il est toujours très inspiré. Et lorsqu'il écoute Elton John, il siffle. Bonjour Jean-Paul Delperrier. Les pronostics.
Bonjour Frédéric. Vous écoutez aux portes, c'est bien.
Oui.
L'hippodrome du plateau de Gravel, vous l'avez dit, nous accueille ce soir à 20h15 dans la Réunion 1 course 4 pour le prix Onceladus 2700 mètres, 13 concurrents. Et c'est justement le numéro 13, High Fire d'Airpré, que j'ai choisi en favori. Le cheval est très bien engagé, capable à ce niveau de gagner. Son entraîneur en attend un bon résultat devant l'As Harlem de Bussy. Le 7, Hôtel Mystique. 11, Hooper des Chasses. 6, Hamilton Duham. 8, Hercule Madrick. Et le 9, Ulysse Digéo. 13, As, 7, 11, 6, 8 et 9. Ma sélection du jour à Fontainebleau en Réunion 3, course 6. Où je vous conseille le 4, Sir Kevin.
Eh oui, Fontainebleau à Chantilly. Vous savez qu'il n'y a qu'un pas, hein, mais c'est autre chose. Merci Jean-Paul Delperrier. Vos pronostics sont à redécouvrir ou à consulter sur le site sudradio.fr.
La météo Sud Radio.
Attention, cet homme peut vous donner le sourire parce qu'il n'annonce que des bonnes nouvelles en ce moment. La météo Rémi André.
Eh bien, c'est une météo effectivement très souriante, puis ça dure depuis quelques jours, et ça va encore durer tout au long du week-end, avec un temps plutôt beau, on va dire, hein, avec un temps... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'an dernier, à la même époque, on avait des températures qui étaient vraiment très élevées, mais cette année, eh bien, c'est un printemps plutôt agréable, avec des températures un petit peu fraîches le matin, on s'en rend compte ce matin, avec des valeurs plutôt comprises entre moins 1 et 7 degrés, on va même tout de même du côté du Pays Basque jusqu'à 13 degrés actuellement sur Saint-Jean-de-Luz. Et puis dans la journée avec le soleil, avec le vent de secteur sud qui reste encore léger, même si dans le vent d'automne il peut encore atteindre 50 à 60 km par heure, eh bien ce vent de sud nous apporte cette grande douceur de l'après-midi, une douceur très agréable, juste avec un petit peu partout cet après-midi des valeurs de 17 à 21 degrés. Nous pourrons aller jusqu'à 20 degrés, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou à Lyon. 21 degrés sont prévus sur le centre et également sur Clermont-Ferrand. Alors cette douceur et ce temps printanier va durer encore tout au long du week-end, ça devrait changer à partir de mardi prochain.
Bon, d'accord. Mais bon, ça sera pas pire non plus que ce qu'on a eu ces derniers jours, parce que c'est fini l'hiver. Merci à vous, Rémi André. Il est 6h30. Le moment pour vous de faire le point sur l'actualité.
Sud Radio. Parlons. Vrai.
Le journal vous est présenté par Marie Dompère. Bonjour Marie.
Bonjour à tous. La guerre en Ukraine va-t-elle entraîner une famine en Afrique ? Emmanuel Macron tire la sonnette d'alarme et appelle la Russie à ne pas entraver la culture de céréales en Ukraine. Un conflit qui pousse certaines entreprises à quitter la Russie, mais ce n'est pas si simple, car il y a beaucoup de conséquences derrière, notamment financières. On parlera aussi des obsèques d'Ivan Colonna en Corse aujourd'hui, et puis du coup d'envoi du SIDAction et du nombre de diagnostics qui est en forte baisse, la faute à la pandémie. Sommet de l'OTAN, sommet du G7 et Conseil européen, journée chargée hier pour les dirigeants occidentaux qui tentent de trouver des solutions pour soutenir l'Ukraine un mois après l'invasion russe. Car au-delà de la catastrophe humanitaire que cette guerre entraîne en Ukraine, les conséquences pourraient être dramatiques, notamment dans certains pays d'Afrique qui risquent de se retrouver confrontés à une pénurie de céréales et donc à une famine de grande ampleur, comme l'a expliqué Emmanuel Macron hier soir, à l'issue du sommet du G7.
D'autres pays, Proche et Moyen-Orient, Afrique, sont eux très dépendants pour nourrir leur population de ce qui est aujourd'hui produit en Ukraine et Russie. La guerre en Ukraine rend impossible pour le moment, par le choix fait par la Russie, de semer comme il se devrait, et donc est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Il est absolument impérieux que, au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable.
De nouvelles sanctions économiques ont été annoncées, notamment par les États-Unis, qui vont geler les avoirs de plus de 300 députés de la Douma, ainsi que ceux des entreprises publiques du secteur de la défense. Les dirigeants européens veulent aussi continuer à empêcher la Banque centrale russe d'utiliser les réserves internationales, y compris en or, afin de bloquer le financement de la guerre. Le président ukrainien a salué toutes les sanctions prises depuis le début, en regrettant toutefois qu'elles soient arrivées un peu tard. Si elles avaient été préventives, la Russie ne serait pas entrée en guerre, a-t-il déclaré. Hier, Renault a décidé de suspendre ses activités en Russie, mais d'autres entreprises hésitent à franchir le pas. Auchan, Leroy Merlin ou encore la Société Générale. Il faut dire que ce retrait coûterait très cher aux entreprises concernées, sans compter les pertes d'emplois à la clé. Pascal Delima, professeur d'économie à Sciences Po Paris.
Pour Renault, c'est des pertes de valorisation boursière, bien évidemment, avec une participation majoritaire sur Avtovaz, qui est le premier constructeur du pays et qui produit notamment la Lada. C'est aussi le deuxième marché de Renault. Total, c'est un peu embêtant aussi parce que Total était associé à l'exploitation de deux champs pétroliers. Et il faut évoquer enfin la Société Générale également, qui détient en particulier Rosbank, qui est sa filiale à 100%, avec 235 agences. Et surtout, et c'est ça le chiffre qu'il faut dire, ce sont des engagements de plus de 18 milliards d'euros et 720 milliards de revenus. Alors à côté de ça, il y a aussi Alstom, Auchan, Bonduelle, Leroy Merlin, etc.
Emmanuel Macron a déclaré hier qu'il voulait laisser les entreprises décider pour elles-mêmes. Aujourd'hui, Joe Biden est attendu en Pologne, tout près de la frontière avec l'Ukraine. Il sera question notamment de l'accueil des réfugiés. Dans l'actualité également, l'appel au calme des autorités en Corse. Les obsèques d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, sont organisées aujourd'hui. Des milliers de personnes sont attendues à Cargès, dans le village de la famille Colonna. Le cercueil du militant indépendantiste a été accueilli à son arrivée sur l'île mercredi soir par une haie d'honneur de centaines de personnes. À Paris, la journée s'annonce compliquée dans les transports en commun, conséquence d'une grève à la RATP. Les syndicats demandent notamment une revalorisation des salaires et dénoncent l'ouverture à la concurrence. Des perturbations sont annoncées sur les bus et les tramways. C'est aujourd'hui le coup d'envoi du SIDAction, 3 jours de mobilisation pour récolter des fonds pour la recherche sur le virus du SIDA. Un virus qui pourrait gagner du terrain car les dépistages sont en baisse, notamment à cause de la pandémie. Sandrine Fournier, directrice du pôle recherche du SIDAction.
On rencontre des difficultés avec les chiffres aujourd'hui de la veille sanitaire parce que, si vous voulez, les techniciens qui remontent ces chiffres sont mobilisés depuis 2 ans sur la Covid et pour cette raison, on a des chiffres très peu exhaustifs. Donc, c'est difficile d'en dire quelque chose. Les chiffres montrent une baisse importante de 22% des nouveaux diagnostics, mais malheureusement, cela probablement ne traduit pas une baisse des nouvelles infections. Ce que cela traduit plutôt, c'est malheureusement une baisse des dépistages. C'est-à-dire que ce qu'on peut craindre aujourd'hui, c'est vraiment un retard au diagnostic des personnes.
Pour faire un don, vous pouvez appeler le 110, envoyer don au 92-110 ou bien vous rendre sur le site sidaction.org. Le foot, mamma mia, l'Italie ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar. Les champions d'Europe n'ont pas réussi à se qualifier. Éliminé par la Macédoine du Nord hier soir 1-0, c'est le deuxième mondial d'affilée qu'ils vont rater puisqu'ils n'avaient pas participé non plus à celui de 2018 en Russie. Ça passe en revanche pour le Portugal qui a battu la Turquie hier soir 3-1. Les Bleus, eux, jouent ce soir, pas d'enjeu puisqu'ils sont sûrs d'aller au Qatar en novembre prochain. C'est un match amical qui les attend contre la Côte d'Ivoire et c'est à 21h15 à Marseille. C'est la fin de ce journal, très bonne matinée avec Sud Radio.
Merci à vous, Marie Dompère.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
6h35, dans un peu moins de 10 minutes, nous recevrons notre premier invité de cette matinée spéciale sur Sud Radio, spéciale élection présidentielle. C'est Othmane Nasrou, le porte-parole de Valérie Pécresse, candidate LR, qui sera notre invité en studio. Tout de suite, comme chaque vendredi, c'est le rendez-vous avec Judith Belair. C'est excellent, un jour, un métier.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.
Des écoles, il en existe pour tout, mais il en existe une seule et une unique qui est gratuite et rémunérée et uniquement pour les métiers du digital d'ailleurs. Nous allons demander à son fondateur ce que cela implique. Bonjour Cyril Pierre de Geyer.
Bonjour Judith.
Bienvenue sur Sud Radio. Alors, pour information, vous êtes aussi professeur affilié à HEC. Vous avez été directeur général adjoint d'Epitech, créateur-directeur des exécutives MBA du groupe Ionis. Vous êtes très, très actif. Comment vous est venue l'idée de monter cette école et qu'est-ce que c'est une école rémunérée, justement ?
Alors, en fait, j'adore Epitech, j'adore HEC. C'est des écoles d'excellence,
ouais.
Mais c'est des écoles qui coûtent respectivement 8 000 et 25 000 euros par an.
Mmh.
Et donc, du coup, c'est des écoles qui ne sont pas extrêmement inclusive.
D'accord.
Pour tout vous dire, il y a 5 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine. Et je me suis dit qu'il était important, vu que j'avais les réseaux pédagogiques, le savoir-faire et de quoi financer le lancement de la formation, que je crée une école qui soit à la fois d'excellence, mais également inclusive.
D'accord. Et alors, vous proposez deux formations. Hein. Il y en a une qui est chargée de marketing digital et une digital business developer. Et alors également une section 100% féminine. Pourquoi c'était important de faire une section 100% féminine, toujours dans la même idée?
Ben, en fait, dans le numérique, on a 30% de femmes. Mmh. Et avant, quand je dirigeais Epitech, on luttait pour dépasser les 10% de femmes.
Ouais.
Et c'est quelque chose qui, pour moi, était important dans cette idée de créer une école qui soit d'excellence inclusive, c'est d'ouvrir la porte aux femmes.
Bravo, on adore.
Et ça marche.
Et ça marche, oui. Vous avez beaucoup d'élèves féminines?
On a 50%.
50%, bravo.
Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un biais en fait, chez les candidates, où globalement, on le voit aussi sur du recrutement, hein, quand une femme a 7 bullet points sur 10 ou 7 compétences sur 10 qu'elles maîtrisent dans ce qui est demandé, elles ne vont pas postuler. Mm. Elles se disent, il m'en faut 10.
D'accord.
Souvent. Et l'homme à 5 va se dire, allez, j'y vais, j'essaye.
D'accord.
Donc nous, on a pris ce biais en compte pour notre recrutement.
Donc il y a vraiment une espèce de retravail, de formation psychologique aussi au positionnement dans le travail, dans le monde du travail.
C'est un des points très importants pour permettre aux femmes d'oser y aller. Et ensuite, on s'aperçoit qu'elles réussissent très bien et qu'elles sont très contentes.
Et alors, une école gratuite et rémunérée, ça veut dire qu'on vient dans votre école et on est payé pour travailler. Comment est-ce que vous sélectionnez les élèves qui sont rémunérés, justement? On imagine qu'il faut quand même montrer patte blanche.
C'est ça. Alors ça, c'est le côté inclusif. Mmh. Au-delà des mots qui sont sympas, la question se pose, comment est-ce qu'on fait pour recruter des gens sans condition de diplôme, en s'en fichant d'où ils viennent, de leur couleur, de leur pédigré. Et pour ça, tout simplement, on utilise ce que nos amis américains appellent les soft skills.
D'accord.
Donc la personnalité, les traits de caractère.
D'accord.
Et en fait, notre premier pilier, c'est de dire que pour être heureux dans la vie, il faut être bon dans son job. Et pour être bon dans son job, il faut avoir la bonne personnalité. Mmh. Je vous donne un exemple. Pour être commercial, business developer, quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, ça n'a aucun sens qu'on l'accepte. Mmh. Donc, on fait passer à tous nos candidats des tests de personnalité.
D'accord.
Et en fonction de qui ils sont, on va les accepter ou les rediriger vers d'autres types de formations.
D'accord. Et alors, juste encore pour terminer assez rapidement, quand ils sortent de l'école, les élèves, ils ont du travail tout de suite grâce à vous. C'est ça l'idée?
Alors, en vrai, c'est encore mieux. Quand
encore
ils commencent
mieux.
L'école, ils ont déjà une promesse d'embauche.
Ah, d'accord.
Et c'est ça qui nous permet de les rémunérer.
Ouais.
On travaille notamment avec Pôle emploi, qui est un partenaire très efficace.
Ouais.
On présente nos métiers, on fait passer des tests de personnalité.
Oui.
Et après, on leur présente des entreprises avant même qu'ils aient commencé la formation.
D'accord.
Et quand ils commencent la formation, ils ont une promesse d'embauche. Donc,
bravo.
Du coup, ils sont motivés x10.
Alors, je lance un appel aux auditeurs, hein, pour les étudiants qui ont envie de faire des métiers dans le numérique. Il faut absolument aller s'intéresser donc à la roquette-du6school.com, montée par Cyril Pierre de Geyer, puisque c'est innovant et intéressant. On vous remercie pour votre témoignage.
Merci beaucoup.
Très bonne journée. Au revoir. Merci.
Bonne journée.
Sud Radio, c'est excellent. Un jour un métier, Judith Belair.
6h40 sur Sud Radio. N'oubliez pas, consultation émission spéciale élection présidentielle ce matin. Allez sur les comptes Twitter et Facebook de Sud Radio. De quelle nature sera votre vote? Utile, de conviction, abstentionniste ou blanc? Vous faites votre choix. À tout de suite.
5h-10h, le grand matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel.
6h42, faisons un point sur les grands titres de l'actualité. Joe Biden s'invite en Europe pour brandir l'avertissement des États-Unis. Si la Russie utilisait des armes chimiques en Ukraine, cela appellerait une réponse de l'Alliance Atlantique, indique le président des États-Unis. Hier, lors du triple sommet OTAN, G7, Union européenne, le président a donc pris position. L'OTAN également a annoncé le renforcement de ses dispositifs de défense aux frontières de l'Ukraine. De son côté, l'ONU a de nouveau adopté une résolution condamnant cette invasion russe, résolution adoptée à 140 voix pour et seulement 38 abstentions, 5 votes contre, parmi lesquels évidemment la Russie, mais aussi la Corée du Nord et la Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui après le tir de missiles nord-coréens hier dans l'espace maritime du Japon. Enfin, la crise sanitaire et le nombre de contaminations au Covid qui continuent d'augmenter en France, plus de 148 000 cas en 24 heures, selon les chiffres publiés hier. Une matinée spéciale sur Sud Radio, spéciale élection présidentielle. Nos invités commencent avec, vous ouvrez le bal, cher Othman Nasrou, bonjour. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Trappes, premier vice-président de la région d'Île-de-France, et vous venez en tant que porte-parole de Valérie Pécresse, la candidate LR. Première information, elle est atteinte du Covid, rappelons-le. Vous étiez en contact, vous êtes donc négatif.
Tout à fait, bien sûr. On a tous autour son entourage proche, fait évidemment la vérification d'usage, mais vous savez, elle est combative, elle a malgré tout maintenu sa participation hier dans une grande émission télévisée. Parce qu'il
qui
faut...
n'était pas simple, hein, parce que c'était en duplex et il faut gérer. Hein.
Bien sûr, mais il faut aussi que la campagne se poursuive et que le débat se fasse sur le fond. Et Valérie Pécresse a beaucoup de choses à dire aux Français sur le fond des propositions.
Comment peut-elle se poursuivre cette campagne dans de bonnes conditions? Parce que, évidemment, c'est bien, on a tous pris l'habitude de la visio, mais c'est le contact qui prime. C'est un casse-tête ainsi pour vous?
Oui, mais on s'adapte. Vous savez, beaucoup de Français ont eu cette situation dans laquelle ils ont dû continuer à travailler, mais à travailler à distance. Et donc, la campagne se poursuit sous d'autres formes pour quelques jours. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est que les Français puissent maintenant regarder les projets, les confronter les projets des uns et des autres, faire aussi le bilan d'Emmanuel Macron auquel il essaie d'échapper parce que ce bilan n'est pas bon. Et donc, Valérie Pécresse, sur les réformes qu'il faudra faire, elle a beaucoup de choses à expliquer aux Français et à présenter. Et elle va continuer à le faire sous une autre forme.
C'est comme un gimmick, hein, finalement, dans votre discours. Il faut absolument critiquer Emmanuel Macron. C'est vraiment histoire de se différencier de lui. Ça a été d'une certaine manière une inquiétude qu'on ne fasse pas la différence entre les deux ou pas ?
Non, il est sortant. Il est normal de parler de son bilan, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et moi, je considère qu'il n'a pas fait les réformes dont le pays a besoin et qu'il laisse une situation qui n'est pas bonne. Et c'est pour cela qu'il faut le remplacer par une candidate qui porte un projet de gouvernement, pas simplement de contestation.
Mais une candidate qui a dû quand même rappeler son positionnement parce qu'elle a été invectivée chez Cyril Hanouna par Marion Maréchal qui lui a dit « Mais vos proches, Éric Ciotti, sont-ils d'extrême droite. Enfin, bref, on a l'impression qu'elle est tiraillée, Valérie Pécresse.
Écoutez, moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'elle n'a pas besoin de se différencier d'Emmanuel Macron. Sur le plan de la sécurité, il a laissé l'insécurité exploser. Il n'a pas dans son projet de mesures fortes. Sur le plan de la maîtrise des flux migratoires, les reconduites à la frontière ont été divisées par deux. Il ne propose rien de nouveau. Valérie Pécresse, elle, propose les quotas migratoires, de renforcer les moyens de la justice, de remettre en place les peines planchers. Tout un dispositif pour remettre de l'ordre dans notre pays. Et donc, je crois que les différences sont abyssales entre les deux. Tous ceux qui jouent à cette petite musique.
Et différence avec Éric Zemmour, elles sont abyssales aussi ?
Écoutez, Éric Zemmour n'est ni en capacité de gagner, ni en capacité de gouverner, ne propose aucune solution concrète, même sur ce thème de prédilection. Valérie Pécresse l'a confronté et a mis le doigt sur tout ce qui n'allait pas dans son projet, y compris quand il nous parle d'immigration zéro, ce qui est à la fois une chimère et une astuce, en réalité un élément de langage. Éric Zemmour est un commentateur, un polémiste, et je crois que ça se voit dans cette élection présidentielle. D'ailleurs, il décroche dans les sondages parce qu'il ne peut rien incarner, en tout cas pas incarner l'alternative à Emmanuel Macron, contrairement à Valérie Pécresse.
Othman Nasrou, vous êtes le porte-parole de Valérie Pécresse, je vous fais une confidence. Vous l'avez peut-être d'ailleurs écouté sur notre antenne sur Sud Radio hier, dans Les Vraies Voix. Personne ne dit que Valérie Pécresse n'a pas de qualité, tout le monde reconnaît son talent politique, mais tout le monde se dit aussi qu'elle n'est pas au niveau où elle devrait être dans cette campagne. Vous qui êtes un excellent communicant, vous le prouvez encore, est-ce que vous lui donnez des conseils ? Parce qu'en termes de communication, dans cette campagne, elle est en train de faire des petits loupés.
faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on cherche un président ou une présidente de la République ou est-ce qu'on cherche des comédiens ? Si on cherche des comédiens, des grands acteurs, on en a un très bon là, qui s'appelle Emmanuel Macron, qu'on peut reconduire. Si c'était la cérémonie des Oscars, il faudrait qu'il soit réélu. Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui fait les choses. À la tête de sa région, elle l'a démontré. Elle a le souci, elle a un projet, elle veut le mettre en œuvre. Je l'ai dit, pour remettre de l'ordre dans notre pays, mais aussi pour redresser les comptes publics, pour redonner du pouvoir d'achat pérenne, pas simplement du pouvoir d'achat à crédit. Tout ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est de dépenser aujourd'hui les impôts de demain, les impôts de nos enfants et des générations futures. Valérie Pécresse, eh bien, c'est peut-être pas celle qui se met le plus en scène, qui joue le plus la comédie, mais c'est celle qui sait prendre des décisions et qui a le courage, elle le démontre dans cette campagne, même dans l'adversité, demain, à la tête de l'État, de mettre en place les réformes courageuses dont le pays a besoin.
En même temps, Othmane Nasrou, il y en a deux qui brillent, alors vous les appelez les acteurs, mais il y en a deux qui brillent, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et dans les sondages, ce sont eux qui performent derrière Emmanuel Macron. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, pour être président de la République, ne faut-il pas être bon acteur ? Alors, sans aucun clin d'œil, évidemment, à Volodymyr Zelensky en Ukraine, mais aussi, les Français attendent de candidats une forte personnalité.
Mais Valérie Pécresse a une très forte personnalité, tous ceux qui la connaissent vous le diront. Vous savez, quand on tient bon dans cette campagne, malgré les déstabilisations, les attaques personnelles, le traitement qui est fait à chaque fois qu'il y a des polémiques stériles qui naissent, pour qu'on ne parle pas des propositions de fond, moi je considère qu'elle a démontré qu'elle avait au contraire l'étoffe. Mais encore une fois, moi je crois que les Français sont fatigués de ça, sont fatigués de tous ces beaux parleurs, de toutes ces envolées lyriques, de ces grands effets de manche.
Oui, mais regardez les sondages,
oui, mais regardez le quotidien qu'ils vivent. Oui, ouais. mais écoutez, d'ici au 10 avril, je crois que dans l'isoloir...
On en reparlera avec vous.
Mais avec grand plaisir. Ouais. Et moi, je vous garantis, je suis convaincu, c'est ma conviction, que le résultat sera très différent de ce qu'on nous prédit. Parce qu'au moment où ils voteront, les Français vont regarder qui est en capacité réellement de faire le travail. Et en général, vous avez des gens qui parlent beaucoup et qui font peu. C'est le cas d'Emmanuel Macron, comme de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour. Des grands discours, peu d'actes concrets. Et Valérie Pécresse, c'est l'inverse.
Alors, d'accord, hein, on connaît Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, mais c'est une région à titre personnel que je connais, donc je l'ai côtoyée. Je la trouve effectivement plutôt à l'aise dans le contact, mais là, quand même, reconnaissons-le, d'elle-même, elle reconnaît qu'elle a échoué dans son meeting du Zénith. Elle dit « je n'ai pas eu le bon ton », à peu de choses près comme cela. Hier, les observateurs ont rappelé quand même qu'au lendemain de son débat avec Marion Maréchal, elle avait été un peu dominée. C'est la même que lors de la campagne pour le conseil régional qu'on a, ou c'est une Valérie Pécresse un peu différente?
D'abord, est-ce qu'on veut quelqu'un qui est uniquement dans les apparitions télévisées réussi? Encore une fois, face à Éric Zemmour, on l'a donnée perdante. Elle l'a dominée, comme vous dites, pour reprendre votre expression. Et elle a été la seule, d'ailleurs, à avoir le courage d'aller l'affronter et de le mettre devant ses contradictions. Et ça a été un succès. Tout le monde l'a reconnu, parce que Éric Zemmour ne propose rien de concret et rien de sérieux, en réalité. Moi, encore une fois, est-ce qu'on veut quelqu'un qui fait la comédie, ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui va augmenter le pouvoir d'achat des Français avec cette hausse de salaire de 10% de manière pérenne? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui est le meilleur orateur de la campagne, ou est-ce qu'on veut au contraire qu'on mette fin à l'impunité des délinquants?
On peut vouloir les deux aussi, hein, parce qu'il faut une certaine posture. Elle est coachée en termes de communication, Valérie Pécresse, ou pas? Oui, comme tous les candidats.
Mais attendez, c'est quelqu'un qui a l'expérience du gouvernement. Elle a été deux fois ministre avec d'excellents résultats. Elle a tenu
c'est
bon face
ça
à la
c'est
rue.
Surprenant. C'est pour ça que c'est surprenant.
Et surtout, vous me parliez de son passage. Elle est aujourd'hui présidente de la région Île-de-France. Regardons la réalité de son bilan à la tête de la région. Elle a réussi à déménager le siège de la région. Elle a fait 2 milliards d'euros d'économies. Elle a augmenté les moyens de la sécurité, y compris dans les transports ou dans l'équipement des polices municipales. Elle a mis en place la première charte de la laïcité en France pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un euro d'argent public qui aille financer ceux qui veulent affaiblir la République. Ça, c'est le bilan concret de son action. Franchement, la communication, je pense, c'est pas l'urgence du moment dans l'état où se trouve le pays.
Bon. 11,5 dans les sondages hier, hein, dans le Rolling IFOP fiducial. Vous estimez que ça va se terminer à combien pour elle?
Moi, j'estime et je suis convaincu qu'elle va finir au second tour, parce que le 10 avril, au moment où les Français vont se déterminer, ils choisiront de mettre face à Emmanuel Macron la seule qui a un projet de gouvernement et pas simplement de contestation, parce que ça ne sert à rien d'envoyer Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. On connaît le résultat d'avance. Emmanuel Macron sera réélu sans un vrai débat projet contre projet. Valérie Pécresse, elle a un projet alternatif pour corriger tout ce qui n'a pas fonctionné durant ce quinquennat et pour mettre un terme à cet immobilisme qui fait que pendant 5 ans, on n'a pas fait les réformes importantes. Pas de réforme des retraites, pas de réforme de l'État, pas de maîtrise des flux migratoires, pas de lutte contre l'insécurité et surtout on a laissé filer la dette et les déficits comme jamais alors que nos services publics se dégradent. La solution à tout ça, c'est Valérie Pécresse et le 10 avril, je suis convaincu qu'elle sera mise au second tour pour cette raison.
Othmane Nasrou, vous êtes son porte-parole. Elle est à 11,5 aujourd'hui. Pour être au second tour, il faut imaginer être autour d'aller avec les vases communicants 18. Comment on fait pour gagner 7 points en 15 jours ?
Eh bien, on continue à se battre, on continue à expliquer les propositions, on fait en sorte que le débat se fasse, même si certains, notamment Emmanuel Macron, font tout pour anesthésier le débat et faire en sorte qu'il n'y ait pas de confrontation de projet contre projet. Et je suis certain qu'au fur et à mesure qu'on va regarder ces propositions et les Français, aujourd'hui, commencent à entrer dans cette élection, tardivement, mais le contexte est ce qu'il est, eh bien, je suis certain que quand ils vont regarder aussi les projets plus en détail, ils vont s'apercevoir de plus en plus nombreux, et elle a toujours créé la surprise, même dans des élections précédentes, eh bien, que c'est probablement la présidente de la République qu'il leur faut pour prendre les bonnes décisions et mettre en place les réformes dont on a besoin.
Et pourtant, tout cela en visio, qui ne va pas évidemment avancer les choses.
Oui, pour quelques jours, mais ouais. Elle va reprendre ensuite sa campagne. Elle se poursuivra actuellement sous une autre forme, vous l'avez vu hier soir, mais je ne crois pas que ça change fondamentalement les choses. Ça fait longtemps maintenant, vous savez, qu'elle va à la rencontre des Français partout sur le territoire.
Si j'osais Othmane Nasrou, porte-parole de Valérie Pécresse, je dirais que vous restez positif, mais je le confirme, vous êtes bien négatif ce matin au Covid. Merci.
Uniquement au Covid.
Merci de votre venue. Tout de suite, merci. Cécile de Minibus à votre service. Bonjour Cécile.
Bonjour Frédéric. Merci en tout cas d'être là ce matin avec nous jusqu'à 10h, 0826 300 300 pour nous parler au standard. Et tout de suite, Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et ce matin, nous sommes avec Isabelle de Randinger. Bonjour.
Bonjour Cécile, bonjour vous êtes,
à l'ordre des sages-femmes, pardon. L'ordre des sages-femmes, c'est une instance de régularisation, de régulation de la profession.
Oui, c'est cela, c'est l'instance de référence pour les sages-femmes, pour les pouvoirs publics, pour les usagers.
Beaucoup de départements aujourd'hui pointent la pénurie des sages-femmes en milieu hospitalier et en maternité. Ça veut dire que le secteur libéral est plus attractif?
Alors, le secteur hospitalier, effectivement, il voit partir les sages-femmes, pas forcément vers le libéral, parce que le libéral manque beaucoup aussi de sages-femmes. Il y a des cabinets qui ferment, et puis n'oublions pas aussi la PMI, qui est en grande souffrance.
Ouais, et la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes aujourd'hui a été modifiée et actualisée, hein, par exemple les anti-infectieux. Est-ce que c'est un décret qui, pour vous, qui vient de tomber d'ailleurs, était indispensable ?
Alors, il était indispensable parce que la liste devait être révisée et pour autant, il est plus que discuté puisque les sages-femmes, c'est la seule profession médicale qui se retrouve avec une liste qui vient contrôler la prescription comme s'il fallait absolument, malgré le caractère médical de la profession, toujours contrôler, vérifier ce que font les sages-femmes. Donc, quelque part, c'est une nécessité, mais en même temps, c'est une insulte qui est faite à ma profession.
Oui, c'est sûr. Et en parallèle, en plus, le ministère de la Santé a publié la liste des infections sexuellement transmissibles que les sages-femmes peuvent dépister et traiter chez les femmes. Ça aussi, c'est une avancée. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouviez traiter avant aussi, mais maintenant, c'est totalement officiel.
Alors, l'avancée, c'est surtout que les sages-femmes peuvent diagnostiquer et traiter les partenaires. Oui. Parce que ça, c'était une atypie. Elles pouvaient traiter la personne qui s'adressait à elles, c'est-à-dire la femme, mais pas le ou la partenaire, qui là aussi était tout à fait incompréhensible dans le cas des infections sexuellement transmissibles.
Et pour faire avancer justement les territoires justement des sages-femmes, vous avez rédigé un livre blanc sur les sages-femmes 2022. Quels sont les grands thèmes et à qui c'est destiné ?
Alors, le livre blanc, il a été rédigé avec les organisations professionnelles des sages-femmes, donc pas seulement l'ordre. Oui. Les objectifs, c'est amener les citoyens à ce qu'ils exigent des candidats à la présidentielle et aux législatives, des engagements pour la santé. Comment ? Avec trois objectifs, faire de la santé et des droits des femmes une priorité. Actuellement, une femme sur trois n'a pas accès à la gynécologie, par exemple, et elle ne sait pas que le rôle des sages-femmes, c'est celui-ci. Le deuxième axe, c'est améliorer la qualité, la sécurité des soins en périnatalité en augmentant les effectifs de périnatalité. Il n'est plus acceptable qu'en France, la deuxième cause de mortalité maternelle après l'accouchement soit le suicide, faute d'accompagnement des femmes. C'est un drame que vit la France. Et enfin, le troisième point, c'est pour permettre de remplir les deux premiers, c'est renforcer l'attractivité de la profession, de ma profession, en améliorant les statuts et la rémunération.
Absolument. En tout cas, on est ravis de vous avoir eu au téléphone et de pouvoir exposer justement ces avancées. Merci beaucoup Isabelle de Randinger. Le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes était avec nous ce matin et restez avec nous 6h57. C'est une émission spéciale aujourd'hui pour la présidentielle.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.